toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission à l'air libre. Aujourd'hui, je reçois Frédéric Valabrègue, écrivain né à Marseille en 1952, qui est parti assez tôt, à 17 ans, au Niger, puis a voyagé en Amérique du Sud, et revenu à Marseille en 1977 pour travailler auprès de peintres et de poètes. Son premier roman, La ville sans nom, a été publié chez POL en 1984. En réalité, c'est le cinquième écrit, mais le premier publié. POL deviendra son éditeur, il est toujours aujourd'hui, pour ses autres romans, Agricole et Béchamel, sorti en 1992, et puis Le Verre clos en 1998, Asthme en 2005, et puis un gros livre paru en 2005, Les Mauvaisties, qui se déroule à Marseille, comme presque tous ses précédents ouvrages. Actuellement, Frédéric Valabrègue est professeur d'histoire de l'art à l'UMINI, et puis il continue à travailler dans le domaine de l'art, mais aussi, depuis peu, dans le domaine du cinéma, avec un premier film qu'il réalise et dont il va nous parler. On se retrouve dans le quartier, au départ, du Panier, à Marseille, et puis il a eu envie de déménager et de s'installer un petit peu plus loin, vers la Joliette.
Con toda caricia, me acerco al fuego.
Frédéric, bonjour. On est dans la salle du Polygone étoilé, où tu m'as amené, après oui. un petit moment de marche, parce que tu avais envie qu'on soit dans un endroit que tu aimes bien.
Oui,
tu m'as dit qu'il y avait le cinéma qui commençait à rentrer un peu dans ta vie.
Oui, mais surtout, j'aime beaucoup cette salle de projection, parce qu'il y a des tas de choses qui s'échangent dans cette salle, avec les gens qui sont du quartier, avec les gens de la cité Massabo, avec des réalisateurs, avec des techniciens du cinéma, avec des gens qui sont passionnés par ça. Et c'est une structure qui permet à un cinéma qui n'est pas visible hors des circuits officiels, d'avoir son intérêt, ses prospections et son audience. Et j'aime beaucoup cette ambiance parce que elle est très chaleureuse en même temps. Après les projections, on organise des repas et chacun se relaie pour organiser des repas, et il y a tout un échange et tout un brassage de population avec les gens qui viennent de la rue de la République. Toutes ces structures associatives se retrouvent à l'intérieur d'une passion pour le film.
Dans un quartier que tu aimes bien en plus.
Oui, j'ai énormément aimé la Joliette au moment où, dans les années 60, il y avait tout un front de bistrots que j'ai fréquenté à une époque, et où il y avait encore, bien entendu, une population de dockers qui était importante et qui vivait beaucoup dans ces bistrots. Oui, ça, j'ai aimé la Joliette autrefois. Alors la Joliette est devenue glacée à cause de cette sorte de bretelle ou de rocade qui a complètement tué le quartier. Par ailleurs, la rocade est très belle, et quand on est dessus, on jouit d'une vue et d'un travelling absolument monumental. Mais c'est dommage que le quartier ait été tué par la rocade quand même. Parce que ce front de mer, il était très vivant autrefois. Aujourd'hui, il ne permet plus rien.
Alors, je m'apprêtais à faire une rencontre avec un écrivain, ce que tu es, ce que tu es toujours. Et puis en fait, on parle depuis tout à l'heure beaucoup de cinéma, et tu as envie de me dire beaucoup de choses autour du cinéma. En même temps, je ne suis pas surpris, puisque tu es aussi professeur aux Beaux-Arts, et tu as un rapport à l'image et à peut-être à d'autres choses que le texte, d'autres langages que le texte que tu exprimes peut-être de cette façon-là aussi.
Il y a une chose qui se passe, c'est que j'adore être dehors. Je ne conçois pas qu'on puisse rester dedans. J'ai toujours été dehors. J'ai toujours voyagé. Et le fait d'écrire me contient et me confine au bureau. Et le cinéma me permet d'abord d'être sans arrêt en activité, d'agir. Tandis que écrire, même si c'est agir, c'est ne pas engager suffisamment le corps. Quoi qu'il y soit, aussi le corps. Ouais. Moi, j'écris beaucoup avec quelque chose qui est de l'ordre d'un flux. Mais j'avais vraiment besoin de ça. J'avais vraiment besoin de me dégourdir les jambes, de sortir de la bibliothèque. J'en ai marre de regarder à l'intérieur de ma tête. De toute façon, à un moment donné, dans la vie, il faut élargir le cercle. Il faut casser ce que l'on a. Il faut casser les ornières. Ouais. Il faut, Il faut sortir, quoi. Et le cinéma, c'est ça. Et ce qui te permet le plus de sortir dans le cinéma, c'est le rapport avec l'équipe. Et là, le rapport avec l'équipe, c'est un réajustement permanent. Ouais. Et c'est en fin de compte un très bel échange qui apprend beaucoup de choses. Tandis que dans la littérature, on est vraiment maître chez soi. Et personne ne vient nous déranger. Moi, j'ai eu besoin d'être dérangé.
Et là, tu travailles justement en équipe. Tu travailles avec une réalisatrice. Oui. Pour un premier film que
Caroline
vous avez déjà...
Caroline Delaporte. Caroline Delaporte, oui. J'ai fait un premier long-métrage en DV qui s'intitule « Beignet d'ortie » où j'étais seul réalisateur. Et là, j'ai demandé à Caroline Delaporte qui a fait l'école du cirque et les beaux-arts. Et ça m'a beaucoup intéressé, ce double rapport, et qui est cinéaste aussi. Alors, elle a fait les beaux-arts, elle a fait l'école du cirque. Et quand elle a fait l'école du cirque, elle a créé un personnage de clown qui se nomme Bernard. Bernard est un très beau personnage de maladroit, comme dans la tradition du burlesque, mais qui sent au niveau du quotidien que tout peut lui échapper, mais qu'en même temps, il peut réinventer ce quotidien à partir de faits minuscules, et que sa maladresse peut rentrer dans une dynamique qui est productrice de non-sens, mais au nom de l'humour, au nom aussi d'une sorte de désinvolture, comme ça, par rapport à tout ce qui est un peu instauré. Et Caroline a fait ça dans des galeries, elle a fait de la performance. Son personnage de Bernard, elle l'a promené dans de nombreux lieux. Et ensuite, elle est devenue cinéaste. Elle s'est tournée vers le cinéma alors qu'elle avait donné de la performance dans des théâtres, dans des milieux institutionnels, dans des musées, etc. Et moi, j'avais un grand souvenir de son personnage sur le plan physique, parce que Caroline a énormément de tonus sur le plan physique. C'est vraiment quelqu'un qui est enraciné, qui a une grande force. Et je voulais voir bouger ce corps dans ce personnage androgyne qu'elle a intitulé Bernard.
Ce rapport au corps, il est important. Là, il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire par rapport à ce que tu as évoqué. Là, c'est ces promenades dans Marseille qu'on trouve déjà dans tes livres aussi. C'est à l'extérieur, ça se passe dehors.
Oui.
Et puis ce rapport au corps aussi.
Oui, ben Bernard est confronté à quelque chose qui s'appelle Marseille. Or, il se trouve que Bernard est déjà dans un costume qui est très étudié pour sa définition, qui est en même temps très drôle et qui est vraiment invraisemblable. Eh bien, Bernard, dans les rues de Marseille, ne se fait absolument pas remarquer. Bernard n'est pas remarquable. Partout ailleurs dans le monde, Bernard, ce serait quand même quelque chose qui est de l'ordre de la joue ou de la tâche, de quelque chose qu'on veut gommer ou quelque chose qui jure totalement avec le paysage. Là, à Marseille, sur un marché, je pense que Bernard est en bonne compagnie et qu'il y a une sorte de connivence qui s'installe immédiatement. Alors oui, il y a ça, il y a une sorte de déambulation dans Marseille à la recherche de quelque chose qui peut être de l'ordre d'une nouvelle, d'une bonne ou mauvaise. On le verra au fur et à mesure que le film s'élaborera.
Ouais. Sortir du cadre, c'est important. Tu disais tout à l'heure, tu avais envie qu'on te bouscule, qu'on te dérange, que tu sortes toi-même de schémas préétablis que tu aurais pu te construire tout seul.
Ben, mais dans la littérature, c'est toujours ça, parce que dans la phrase même, je sens qu'il y a quelque chose où j'ai pu amener une petite disjonction, où j'ai pu faire bouger des éléments qui iraient de soi par rapport à une pratique de la littérature ou une pratique de la lecture très très assidue. Moi, j'attends toujours que les mots reprennent une place vivante. Et je sais que la langue française, il faut lui donner beaucoup de coups de pied au cul pour arriver à la bouger, quoi. Alors, bien entendu, des alliances de mots nouveaux, des télescopages qui, à l'oreille, me paraissent inouïs, c'est vraiment ce que je recherche. Pas dans un culte de l'originalité, mais dans le culte de quelque chose qui survient, qui advient, qui arrive, quoi.
Ouais.
J'essaie de ne jamais écrire une phrase toute écrite. Ce qui, parfois, est un peu malaisé, peut-être un peu inconfortable. Ça peut donner, si tu veux, des pages qui peuvent sembler presque trop âpres. Mais c'est ça qui me plaît, oui. C'est ça que je garde en moi. Et d'ailleurs, quand je lis des écrivains... Je le sens tout de suite. Là, l'année dernière, j'ai lu la traduction... Une traduction faite par Eric Sucher des poèmes de Jack Spicer. Ça a été publié au Bleu du Ciel. Et j'ai trouvé que Spicer a un emploi du vers, un emploi de la phrase, hein, qui est tout à fait bouleversant parce que il n'y a rien qui est lâché par rapport à un côté univoque ou qui irait de soi. Tout est retravaillé dans une chair aveugle. Et moi, je pense que écrire, c'est aller rentrer dans l'opacité, hein, ouais. C'est pas rentrer dans la transparence.
Ouais. Tu parlais de cette écoute de la phrase quand tu écris, de ce qui à l'oreille doit te sembler aussi nouveau, peut-être. Et tout à l'heure, tu me parlais du cinéma et de l'importance aussi du son dans ce que vous réalisez, dans le film que vous êtes en train de montrer avec Caroline.
Oui, il se trouve que Caroline, en tant que cinéaste, a réalisé un film qui s'appelle Pologne récemment, et que le son a toujours eu beaucoup d'importance chez elle, parce que comme elle a fait l'école du cirque, etc., elle est aussi, bien entendu, musicienne. Tous les clowns sont musiciens. Et elle a un emploi du son qui est, bien entendu, tout à fait à côté de l'image, mais ça c'est connu, hein. c'est une règle d'or au cinéma, mais qui est très particulier. Et là, bien entendu, on s'en est référé à quelque chose qui appartient à Satie, mais qui est le gros plan sonore, c'est-à-dire instaurer du détail et le généraliser à l'ensemble de l'image, aller chercher une petite source sonore et en faire un gimmick. Bref, on reconstruit tout à fait le son, on le resculpte comme l'image est resculptée. Le son au cinéma, entre la post-synchronisation et la prise directe, permet énormément d'inventions. Et alors on aborde le cinéma en pensant à l'image, etc. Et on découvre un pays encore plus vaste et plus immense. C'est le rapport de l'image au son, et du son en tant que tel. Et là, Caroline est très très attentive à ça. Et déjà dans Pologne, il y avait un très beau travail fait là-dessus.
Et cette plongée dans la matière première, c'est quelque chose qui te semble proche, identique de la plongée que tu fais dans la matière première littéraire, des mots, des phrases, cet univers à resculpter en permanence.
Quand j'écris une page, elle est extrêmement mouvante, et avant qu'elle soit en place, il faut énormément de couches successives. Sur le premier jet, j'essaie toujours d'être très très dynamique, mais ensuite je cherche dans la matière. Je dis souvent qu'une phrase à l'affirmative, si ça fait mieux, je peux la mettre à la forme négative. Voilà, bon, je sais que ça peut être pas très sérieux de dire ça, mais c'est pour dire que la page, elle passe dans sa totalité, que le paragraphe passe dans sa totalité, et que j'opère sur la langue, dans la prose, quelque chose qui est de l'ordre de la poésie. Ça, c'est bon, c'est quelque chose que je répète sans arrêt, mais je sais que pour moi, tout est une histoire. Il n'y a pas de micro-événement qui ne soit pas propice à une histoire. Donc, c'est pas aller vers l'histoire, et pourtant, je sais qu'il y a des grands fabulistes et des grands conteurs, et je les félicite pour ça, pour l'ampleur de leur vision, et pour la qualité de leur imaginaire. Hein. Il y en a plein de livres comme ça qui sont remarquables. Moi, il se trouve que c'est pas une histoire qui me porte. C'est toutes les digressions possibles que me procure une histoire. Ouais. Et là, avec Caroline, dans le cinéma, je crois que c'est pareil. Nous, on prend toujours la tangente. C'est-à-dire que dès que quelque chose s'ouvre dans un coin qui était totalement imprévu, mais qui a été déclenché par ce qui a précédé, alors là, on suit la piste immédiatement, quitte à se perdre.
Vous êtes prêt à vous faire dérouter sans arrêt.
Voilà, voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Parce que la saveur, elle vient de là, quand même. C'est curieux parce que c'est le cinéma et la littérature, c'est une pratique où beaucoup s'incarnent, et ce qu'on appelle l'incarnation d'une manière générale, et peut-être que je dis quelque chose d'un peu trop général justement, ça demande du présent, ça demande de l'actualisation. Il faut actualiser quelque chose. Et l'actualiser, c'est le découvrir au moment même où on le fait. Parce qu'à partir du moment où on commence à répéter quelque chose, ça s'effondre. Et d'ailleurs, nous, si on répète, c'est pour permettre la digression. C'est parce que dans un cadre donné, on est certain que ça va nous échapper et qu'on va aller vers cette échappée. Par conséquent, toutes les structures, qu'elles soient celles du récit ou celles du cinéma, sont faites comme si on se ménageait une planche d'appel. C'est de là qu'on va sauter. C'est le cadre qui fait qu'on va pouvoir le déborder. C'est ce sur quoi on s'appuie pour aller ailleurs. Voilà, ça, j'espère que ça sera comme ça.
Ouais. Aller toujours ailleurs, ça c'est aussi une démarche que tu appliques en permanence dans tes romans aussi. Enfin, à la fois, je dirais à l'intérieur de chaque unité romanesque qu'est un livre, mais chacun va un petit peu ailleurs du précédent. Chacun a un petit côté, je dirais pas inachevé, mais qui laisse toujours une porte de sortie aussi, qui laisse toujours une échappée, peut-être pour un autre livre, peut-être pour le suivant, mais aussi un autre. Tu oui. as ce sentiment-là ?
Ben, j'ai toujours l'impression que c'est très différent d'un livre à l'autre, et j'essaie toujours de faire en sorte que ce soit différent. Mais bien entendu, la littérature, c'est un art qui est très modulaire. On se sert d'éléments tout à fait préfabriqués. Et ces éléments préfabriqués que l'on a en soi, parce qu'on raisonne toujours sur les mêmes points dans une existence, on n'arrête pas d'en découvrir les variations. Alors, c'est modulaire à la fois. Avant, autrefois, on parlait de métaphores obsessionnelles, de trucs comme ça. C'est plus ça. Hein. Mais si tu veux, c'est vraiment modulaire, la littérature. C'est-à-dire que moi, je sais très bien que je rencontre des blocs qui m'appartiennent depuis toujours. Ouais. Et que dès que je suis sur ces blocs, je me dis, bon, là, c'est du gâteau. Alors, il faut résister d'abord au fait que ce soit du gâteau et essayer de faire en sorte que la variation déporte l'habitude prise par rapport à un terrain conquis. Mais autrement, moi, je sais très bien que là, ça va marcher. C'est pour ça que j'ai toujours utilisé Marseille, même dans des livres très différents. C'est parce que je sais que là, il y a quelque chose qui va me porter.
Oui.
Ça va me porter parce que, si tu veux, je me fais un chemin dans la tête qui est celui des rues, etc. Et dès qu'il y a ce chemin dans la tête, ça avance, ça chemine, justement. Il y a de l'espace qui se crée. Mais autrement, les trois livres sur Marseille étaient très différents. Il y en avait un, c'était un livre baroque avec un imprécateur. Le suivant, c'était un livre qui était quasiment un clip ou l'arrête d'un livre. Et ça parlait de la vie de deux petits employés. Ça s'appelait Agricole et Béchamel. Ouais. Et le troisième...
Le premier, c'était La ville sans nom.
Oui, La ville sans nom. Le deuxième, Agricole et Béchamel, La vie des employés de Marseille. Parce que Marseille est une ville d'employés. Et c'est pas une ville de... C'est pas une ville de losers. C'est pas une ville de voyous. C'est pas une ville de rebelles. C'est une ville de petits employés.
Ouais. Et de fonctionnaires. C'est le premier employeur de Marseille.
De petits fonctionnaires dont je suis. Puisque je suis un employé de la ville de Marseille. En tant que chargé de cours aux Beaux-Arts de Marseille-Lubigny. Mais...
Et le troisième, c'est
le troisième, mauvais... c'est les mauvaisties. Voilà, c'est les mauvaisties. Et là, c'était encore ce qu'on appelle les quartiers, l'idée des quartiers. Mais revues sans dramatisation, sans doute, et sans tragédie, ni sans western. Quoi qu'il y en ait un peu du western. Ouais. Voilà, alors si je raconte des histoires, justement, c'est parce que je suis pas très western. Alors je la tiens pas, ma grosse fable, ma grosse parabole, le bien, le mal, des trucs comme ça. J'arrive jamais à la tenir ni à la prendre au sérieux.
Oui, pourtant tu as envie. Hein. Je me souviens, avant les mauvaisties, justement, on avait eu une conversation. Tu me disais, j'ai envie de me coltiner à quelque chose de qui a plus de souffle, quelque chose de plus grand. Ça a donné les mauvaisties, quand même.
Mais si tu veux, plus grand, c'est-à-dire plus longtemps. Ça ne veut pas dire une histoire monobloc. Mmh. Ça veut dire sans doute, dans une structure souple, encore beaucoup plus d'histoires et beaucoup plus de digressions.
Ouais.
Voilà. C'est ça que... Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, je suis en train d'écrire un livre qui, pour l'instant, bon, je touche... qu'est-ce que je peux toucher? Je touche un fauteuil rouge de cinéma. Je ne sais pas, j'arrive mal à parler de ce que je suis en train de faire, mais je ne suis plus du tout à Marseille. D'ailleurs, j'ai écrit que trois livres. Hein. C'est la moitié de ce que j'ai écrit, Marseille. C'est pas tout. Et là, je vais partir ailleurs. Mais ça serait un peu pareil, quand même. On sentira... Là, je suis en train d'écrire un livre où je profite de mon expérience africaine, parce que j'ai vécu en Afrique pendant longtemps. Mon père travaillait au Niger. Moi-même, j'ai fait une partie de mes études au lycée Issa Corombé de Niamey. Ensuite, plus tard, j'ai été enseignant au lycée Kassai de Niamey. Je suis resté de l'âge de 17 ans jusqu'à l'âge de 25 ans au Niger. Et je reparcours ça en ce moment. Je me réinscris là-dedans. Ouais. Là, cet été, j'ai remis les pieds en Afrique pour la première fois, quoi, à part le Maghreb ou à part l'Égypte. Je parle de l'Afrique noire. J'ai remis les pieds pour la première fois depuis 75 en Afrique. Ça fait une paille. Mmh. Et tout est revenu vraiment d'une façon très très intense. Et je me suis souvenu combien j'étais amoureux de ce rythme particulier de vie et de cette façon de considérer le destin d'un homme qui est propre à l'Africain. Et oui, il y a quelque chose qui est propre à l'Africain dans une évaluation de la souffrance, dans une évaluation de la mort. Il y a quelque chose qui est encore propre à l'Africain et quelque chose qu'ils peuvent encore nous apprendre. Et bon, peut-être que c'est des fables ce que je raconte, mais je le ressens.
Oui.
Je le ressens et ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien de retrouver ce contact qui est celle de la foule africaine, qui est une foule extrêmement souple. Ça me plaît énormément de retrouver la souplesse de cette existence, et tout ça dans des conditions de pauvreté terribles que je n'ignore pas un seul instant. Je ne fais pas du tout d'exotisme, dans des difficultés techniques et structurelles innombrables. Mais quand même, il y a un sens du temps, il y a un sens de la durée, il y a un sens de savoir laisser passer une journée. Il y a un sens aussi de la divagation, de la déambulation. Il y a un sens de la palabre. L'Afrique, c'est vraiment le pays le plus spéculateur sur le plan du verbe que je connaisse. Il y a peut-être en Russie aussi, où on refait le monde tous les matins. Mais en Afrique, tous les problèmes et tous les détails des problèmes qui sont liés à des tas de choses, à des tas d'observations dans la vie quotidienne me plaisent, me passionnent.
On dirait que tu as... en toi, ce mouvement d'aller et retour, de partir de Marseille, de revenir, tu es déjà parti de Marseille une dizaine d'années, il me semble, à Paris aussi,
oui.
Tu étais en Afrique avant, là tu repars en Afrique. C'est important aussi de pouvoir t'échapper géographiquement de l'endroit où tu habites pour y revenir ou pour revoir les choses différemment. Parce que Marseille, tu disais... Tu as envie de t'échapper de Marseille aussi. C'est une ville, je me souviens, tu m'en as parlé aussi une autre fois, qu'on ne peut qu'exécrer. Et en même temps, il y a un amour pour cette ville, il y a un attachement pour cette ville.
Je n'ai pas exécré Marseille, je n'ai jamais exécré cette ville. Je pense que dans mon œuvre, je l'ai toujours, dans une certaine mesure, aimée et célébrée. Mais on peut célébrer à travers quelque chose qui est de l'ordre de l'invective,
oui.
et de la râlerie. Je ne sais pas, on n'est pas obligé d'être constamment un bon petit apôtre. Moi, je ne fais pas de la littérature avec mon âme claire, et transparente et pure. Je fais de la littérature avec toute la merde qui me passe dans la tête. Hein. Et dans la merde qui me passe dans la tête, il y a beaucoup de colère.
Oui.
Et si tu veux, ces colères, je les ressens vis-à-vis de ce qui se passe à Marseille, souvent. Et comme c'est quand même mon lieu de vie, un lieu de vie où je me suis toujours senti formidablement bien, je sais très bien ce que je fais à Marseille. Le site, bon, on ne va pas commencer à délirer, mais c'est un endroit où justement, je parlais de l'Afrique, bien entendu, que le personnage de mon livre, je vais le ramener vers Marseille. On a quand même ça, on partage. On n'est pas la ville du plan de carrière, on n'est pas la ville de l'âpreté sociale et de on n'est pas la ville de la compétition ici. On a quand même encore ce sens-là de l'existence en dehors des valeurs. De la productivité, etc. Il me semble.
C'est pour ça qu'il y a des choses qui t'agacent aussi, justement, dans certaines attitudes peut-être plus politiques aujourd'hui qu'on essaie d'imposer.
Si tu veux... c'est curieux parce que je suis partagé. Je ne pense pas qu'une ville doive rester immobile. D'abord, une ville ne reste jamais immobile. Une ville change... Baudelaire disait que le visage d'une ville changeait beaucoup plus vite que celui d'un homme. Et c'est une phrase qui est magnifique parce que moi je l'ai constaté. Et moi, je me suis toujours incrusté dans la Marseille des années 70, parce que ça a été celle qui a été pour moi la plus dynamique, la plus inventive et la plus culturelle. Pas du tout celle des années 80, ni celle des années 90, puisqu'on parle des décennies. Mais si tu veux, aujourd'hui, quand je revois le tramway que j'ai connu, hein, quand...
oui.
puisque ouais. je suis né en 50, je suis assez heureux de voir le tramway. Ouais. Tu sais, je ne suis pas quelqu'un qui est contre... quand je vois le pseudo Trade Center, que l'on est en train de nous faire sous le nom d'Euroméditerranée, mmh. tu vois, un Trade Center. Ouais. Parce qu'il faut qu'on ait notre Trade Center, ça fait sérieux. Ben, si tu veux, quand même, j'adore l'art, je vois des bâtiments qui se montent, et ces bâtiments, certains sont beaux, et si tu veux, ça ne me rend pas malheureux. Hein.
Ouais.
Si tu veux, là, ce qui me rend malheureux, c'est les esbroufs, c'est ouais. la frime, c'est le faux-semblant, c'est quand on ne tient pas compte des habitants, quand on ne tient pas compte de la richesse qui est propre à Marseille, quand on s'imagine que la solution pour Marseille, c'est la gentrification du centre-ville, quand on s'imagine que la solution pour Marseille, c'est remplacer les pauvres par des riches, alors qu'on a cette chance d'avoir encore une ville qui est réellement populaire, et c'est peut-être une des dernières d'Europe, tu vois. Alors là, bien entendu, il se passe un phénomène de colère, mais en même temps... oui, ouais, je crois qu'il y a une façon d'oublier les habitants dans leur réalité à l'heure actuelle qui est assez moche, qui est profondément moche, et qui me met en colère. Par exemple, ici, on est à la Joliette. Il faut voir ce que c'est la Joliette un week-end. C'est une sorte de désolation. On le voit chez les habitants. C'est à la fois le désert et quelque chose qui ressemble à du désespoir sur le plan social. Et juste à côté, il y a ça qui se crée. Qu'est-ce que c'est le rapport entre ces deux mondes? Est-ce qu'on a oublié ce rapport entre ces deux mondes? Est-ce qu'il n'y aurait pas un monde qui est de plus en plus sacrifié? Voilà, c'est les questions que je me pose.
Est-ce que, puisque tu disais tout à l'heure que tu n'aimais pas rester trop longtemps enfermé, est-ce que...
Donc ça, ce quartier, il y a plus de bruit, évidemment, mais... On est au milieu des habitants. Ce que tu aimes aussi quand tu te promènes.
Oui.
Voilà, tu viens souvent par ici?
Pour aller au polygone, bien entendu. Oui. Ouais, là, je viens souvent en ce moment. Moi, mon quartier, c'est entre la Plaine et Castellane. C'est un quartier qui est... disons petit bourgeois, et je dois avoir des goûts un peu petit bourgeois, tu vois, parce que j'aime beaucoup le Camas, j'aime beaucoup Chave et le Camas, et ça, c'est vraiment, tu sais, une délectation du petit bourgeois marseillais, que tu vois, le cours Eugène Pierre qui est vaste, où il y a des trottoirs qui sont un peu larges, où il y a quelques magasins qui sont de bonne tenue, tu sais, c'est très rassurant et c'est doux en fin de compte. Le Camas, je trouve qu'il y a une certaine douceur là-bas. Puis on sent la vieille histoire, tu sais, on sent la vieille histoire des familles qui peut avoir quelques relents un peu douteux parfois. Oui. Hein. Tu vois, le Marseillais s'imagine toujours qu'il est le seul vrai Marseillais.
Oui.
Tu vois, il y a une espèce de recherche complètement fantasmatique d'un âge d'or ou d'une douceur de vivre passé. Qui serait contesté par je ne sais plus qui ou je ne sais plus quoi. Et au Camas, il y a cette petite ambiance-là, tu vois, avec la sculpture de Fernandel qui est chaque fois taguée, avec des injures du genre collabo. Tu sens quand même la France éternelle,
oui,
tu vois. Et le Camas m'amuse. Je serais incapable, si tu veux, de faire quoi que ce soit à partir d'une matière comme ce quartier, non? Non, là où je vais très souvent en ce moment, c'est vers Charles Moretti, là où se passent les Mauvesties, parce que il y a deux ou trois endroits où j'aimerais tourner. J'aime bien ce jardin que l'on voit de l'autoroute, où il y a un immense toboggan, et derrière il y a une ancienne usine avec une montre dans un design assez art déco, ou non, modern style plutôt, et derrière il y a des silos qui ressemblent à des orgues et qui sont très très beaux. C'est le jardin qui est pas loin, qui est pas loin de Marine, tu vois, qui oui. Il y a un double accès par Charles Moretti et par Marine. Voilà, en ce moment, je suis plutôt là. J'aime bien le boulevard de Gibbe, le chemin de Gibbe, pardon, qui descend avec les premiers HLM de la ville de Marseille, qui ont toujours des allures de forteresse et qui ont maintenant beaucoup, beaucoup de cachets et de classe. Alors que c'était des bâtiments très populaires au départ, on peut dire que leur architecture est belle. Hein.
C'est la physionomie des quartiers qui change comme ça beaucoup.
Les habitants changent très vite. Les habitants changent très vite. Je vois que les populations ont de mieux en mieux appris à vivre ensemble, je crois. La structure et les structures associatives des quartiers est remarquable, avec des associations qui sont vouées au théâtre, à la littérature, à l'alphabétisation, à des projets de rencontres, et même des associations communautaristes. Il y a énormément de villes. J'ai vu dernièrement un documentaire de Denis Gerbrandt, un documentariste remarquable, un des meilleurs documentaristes français, qui a travaillé pendant 4 ans à Marseille, qui a fait une série de films en vidéo avec de la HD, et tout seul d'ailleurs, et qui a interviewé et qui a fait toute une enquête sur les femmes de la cité Saint-Louis qui se sont associées pour arriver à défendre ce territoire particulier qui est la cité Saint-Louis, tu la connais ?
Oui.
Et tout ça est bien intéressant. Ce qu'a fait Denis, c'est interroger les gens de la structure associative Marseille, un centre pour tous, qui a aidé les locataires de la rue de la République. Alors c'est ça, ouais. Moi, ce qui me porte dans Marseille, c'est ces initiatives-là.
Oui.
C'est à partir du moment où, quand même, les citoyens sont capables de se regrouper, de réfléchir, de se défendre et de proposer. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Et là, je trouve qu'il y a énormément de pertinence et aussi de création. Oui. Tandis que dans le pouvoir politique, j'en vois guère, hein, parce que le pouvoir politique, il reprend un petit peu les miettes du discours sarkozyste, mais vraiment en bas de l'échelle, quoi. Tu vois, c'est pas grand chose, quoi. Tu vois, on peut pas entendre des propos qui soudain nous paraissent un petit peu plus saignants, plus aigus. Là, c'est le ronron, tu vois, c'est le ronron télévisuel, quoi. Tu vois.
À l'air libre, Pascal Jourdana,
Frédéric Valabrègue. Oui, comment nier la rue dans une cité méditerranéenne ? C'est pas possible de nier la rue dans une cité méditerranéenne. La population va en reprendre toujours possession. Or, le politique voudrait plus que la rue devienne un terrain d'échange. C'est pour ça que nous fait ces ensembles merdiques, ces espèces de trucs fermés. Moi, j'ai vu à Paris une chose qui est un scandale. C'est ce qui s'est passé du côté du Père Lachaise, où on a fait un quartier qui est un quartier mort, à deux pas d'un quartier vivant qui s'appelle Belleville. On a tué un quartier, on l'a reclos sur lui-même, on a fait une sorte de patio. Et en fin de compte, tout l'urbanisme et tout le sens de l'architecture, c'est reste devant ta télé, enferme-toi chez toi, rentre chez toi après le boulot et reste là-dedans, surtout ne bouge plus. Tandis que une ville qui est vraiment démocratique, c'est une ville qui donne des espaces à la rencontre. C'est ça, une ville démocratique. Et le lieu de rencontre par excellence, c'est la rue.
Oui.
Alors, bien entendu, il y a les marchés. Et ça, bon, en France, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas supprimer.
Ça existe toujours.
Ça existera toujours. Tu vois, il y a les marchés. Mais l'urbanisme actuel fait en sorte que les gens soient amenés de plus en plus à se replier sur eux-mêmes et à se replier sur la structure familiale dans son étroitesse. Tu vois ? Tandis que, déjà dans une structure qui est ouvrière et pavillonnaire à la fois, comme la cité Saint-Louis, tu vois que d'un palier à l'autre, et tu vois que la circulation d'ensemble fait que d'une certaine manière, le voisinage et l'entente avec le voisinage, et la négociation avec le voisinage, devient essentielle. Tu vois, la squeezer, c'est déjà et faire en sorte qu'elle n'y soit plus dans une structure architecturale, c'est déjà tuer la ville, quoi. C'est déjà tuer la ville.
Et c'est une ville méditerranéenne, et pourtant, par bien des aspects, cette ville, Marseille, n'est pas complètement méditerranéenne non plus. Elle ne vit pas jusqu'à 3h du matin à faire la fête, comme à Barcelone ou des choses comme ça. Ces clichés-là, ils n'existent pas trop à Marseille.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Il y a une sorte d'austérité à Marseille, une austérité des mœurs qui est relevée depuis l'Antiquité. Ça a été une ville froide, ça a été une ville noire, noire de suie, j'entends. C'est-à-dire pas du tout une ville colorée, comme on s'imagine les couleurs en Méditerranée, sous le soleil, ça n'était pas du tout ça, Marseille. Ça peut être une ville qui confine au fantastique, ça peut être une ville qui est comme un énorme cadenas ou un énorme bloc de fonte. Hein, il peut y avoir ça, il peut y avoir cet aspect dans Marseille. Mais si tu veux, moi j'ai connu la ville dans les années 70 avec une vie nocturne beaucoup plus relevée qu'aujourd'hui. Et là, bien entendu, ce déficit sur le plan de la vie nocturne, c'est dû, si tu veux, aussi à l'état de paupérisation avancée de la ville. Parce que quand tu interroges les gens qui travaillaient dans les raffineries de sucre Saint-Louis, et etc. Mais il y avait des orchestres dans toutes les usines et il y avait des balles partout. Il y avait des balles partout, mais dans les quartiers, même dans le film de Denis Gerbrandt, les femmes de la cité Saint-Louis racontent comment elles organisaient sans arrêt des balles, comment il s'agissait de mettre un électrophone et de faire danser tout le monde sur une place. Attends, mais aujourd'hui, tu fais ça, tu as 2 minutes après, qu'est-ce que tu as ? Tu as la maréchaussée qui débarque, non ? Tu as un truc comme ça qui se passe.
On essaye de s'éloigner un petit peu des lieux de bruit en même temps. J'étais en train de me dire que c'était pas si grave parce que on a l'ambiance de ce que tu es en train de dire finalement, d'une oui. ville bruyante et animée. Mais
c'est vrai que c'est pas une ville nocturne, hein, c'est vrai. Hein, et ça c'est très dommage. C'est très dommage. Parce que dès qu'il fait doux à Marseille, la nuit est extrêmement agréable. Mais on ne voit pas les endroits où c'est possible. Il y a 2 bars de nuit à Marseille, pas plus. 2-3 bars de nuit. Le phénomène de la boîte de nuit est à réinventer et totalement démodé. Même les discothèques, c'est assez vieillot comme pratique. Tu aperçois qu'avec les home cinéma et avec tout le nouvel appareillage technologique, les gens pratiquent une sorte de cocooning effréné. Il faut que tout se passe à l'intérieur de la maison. Et c'est assez dommage. Mais ça, c'est une période de repli, hein, c'est une période frileuse. Tu sais, quand il y a à nouveau de l'espérance dans un peuple, et quand ce peuple se sent porté par quelque chose qui est de l'ordre de la jeunesse et de la vigueur, je te promets que les endroits où la fête a lieu se développe comme un feu, tu vois. Là, on est dans une période qui est tellement chafouine, qui est tellement molle. On est dans un pays qui est en train de s'écrouler, tout simplement. Et au lieu de relancer la machine par des propositions, etc., on sent que tout est cadenassé, que les mêmes vieilles paroles sont toujours dans les mêmes vieilles bouches, quoi. Alors qu'on est dans une situation d'urgence qui demande vraiment une réquisition partout de tous les moyens possibles pour essayer de relancer la machine et de renouveler l'état des choses existantes, ben on s'aperçoit que l'inertie accompagne l'écroulement. Alors tu vois, on lance une histoire comme Marseille 2013 avec énormément de sans doute de propositions, sans doute de dossiers, sans doute de commissions, sans doute de propos, d'exploration. Et en même temps, je ne sais pas si cette dynamique se ressent sur l'ensemble de la ville. Je pense que c'est très coupé, quoi. C'est très à côté. C'est comme le trait de Saint-Terre qu'on nous a fait là.
Ouais.
Ce sont des bulles, tu vois, ce sont des mondes un peu à part. Ça a du mal à communiquer avec le reste de la ville, quoi, tu vois. En tout cas, on ne peut pas dire que Marseille 2013 puisse entraîner quelque chose qui soit de l'ordre de la multiplication des lieux où soudain on a envie de passer une partie de la nuit, quoi. Pour l'instant, on ne le voit pas du tout.
Et de la place des habitants, des citoyens.
Oui.
Là aussi, on a l'impression qu'on les oublie un peu.
Ben, j'ai l'impression que les citoyens sont en guerre concernés par ça, sinon par quelques fêtes un petit peu tonitruantes, peut-être, oui, ou peut-être qu'on va leur en donner de la fête. On va leur en donner deux ou trois, comme ça, de grandes fêtes, avec beaucoup de couleurs, beaucoup de sons, beaucoup de lumière. Mais je ne crois pas que ça va être quelque chose qui, sur le plan culturel, va amener à re-questionner Marseille et permettre surtout à plein de gens qui ont faim de ça, qui savent que c'est là que se trouve quand même un immense plaisir et un épanouissement, une forme d'épanouissement dans l'existence. Je ne sais pas si à eux on va leur permettre d'avoir accès réellement à ça. Alors avoir accès, c'est un peu condescendant, tu vois. Je pense que l'accès, ouais, on peut le gagner, on peut le prendre tout seul et même parfois d'une manière violente, mais si tu veux, je sais pas si ça va être vraiment prospectif. J'ai des doutes.
Qu'est-ce que tu penses de cette place particulière que peut prendre le citoyen particulier, quel artiste, quel écrivain, ou le cinéaste, ou le poète? Est-ce que là, il y a quelque chose à jouer? Il y a un renoncement qui doit être évité à tout prix.
L'écrivain, à partir du moment où il est dans la langue de son temps et où il la retravaille et où il lui donne toute son incandescence, il est dans une action. Il est dans une action que je dirais politique. Je ne sais pas s'il s'agit dans la littérature et dans les arts en général de faire circuler un mot d'ordre ou un message. Mais ça, je le dis aux politiques.
Oui.
Tu vois, je dis aux politiques parce qu'eux, ils s'y entendent à faire passer un message. Eux, ils s'y entendent, tu vois. Eux, ils s'y entendent. Et ils devraient de temps en temps considérer que la culture, c'est pas quelque chose qu'on doit instrumentaliser à leur propre fin. La culture, la générosité vis-à-vis de la culture, ça veut dire de la considérer en tant que mouvement de vie, en tant que mouvement de vie qui n'a pas une fonction immédiate. Ou qui n'a pas une fonction performative comme, par exemple, gagner des voix pour les élections ou amener des investisseurs à Marseille.
Mais ça, rien de neuf sous le soleil, c'est toujours finalement, entre l'artiste et le politique, c'est un éternel combat.
Oui, mais le politique, en axant son propos et en axant ses buts et en s'emparant de la culture au nom de sa... On a un petit peu de son domaine à lui, châtre.
Là, il faut réagir
la culture,
alors.
Châtre la culture.
Ouais.
Je pense, hein. Je pense, parce que si tu veux, ce qu'ils vont nous donner, c'est une idée de la culture qui va dans leur sens. C'est-à-dire, il y aura bien entendu le faux rebelle, en fin de compte. Tout à fait stéréotypé sous la forme du rap, il y aura ceci, il y aura cela, il y aura tout ce qui est labellisé, quoi. Mmh. Tu vois, il y aura tout ce qui appartient à un label. Mais tout ce qui est réellement dans la recherche et l'expérimentation, ben non, l'art c'est de la recherche. L'art c'est de la recherche, mais ils n'en veulent pas de l'art en tant que recherche. Déjà, ils veulent pas de la recherche. Alors pourquoi ils voudraient de l'art en tant que recherche? Non, ce qu'ils veulent, c'est le tiroir-caisse. Qu'est-ce qui fait trébucher et sonner le tiroir-caisse? Tu vois, le reste, ça les intéresse pas beaucoup. Quoi, tu vois.
Là, on se retrouve rue du Bon Pasteur, près de la Porte d'Aix. Ah, tu parlais des marchés tout à l'heure, là. C'est un marché permanent.
Ben, là, il y a de la rue. Là.
La rue.
Oui, là, il y a la rue. Il y a la rue. Chaque fois qu'on lui permet d'être à la rue, elle y est. Hein. Parce que les gens, en fin de compte, si tu veux, on parle beaucoup de la solitude dans les grandes villes. Hein, mais c'est une réalité, hein, c'est pas qu'un thème journalistique. Et moi, je vois que c'est là où on peut encore être un personnage, c'est là où on peut encore échanger, c'est là où on peut encore faire son petit numéro, quel qu'il soit. C'est le bar. La rue, ouais, c'est des lieux que j'aime en tout cas, moi. Tu vois, par exemple, ces marchés, je les aime beaucoup parce que Tu comprends, les gens, ils te disent « Ah, mais regarde, on voit la misère. » C'est pas de la misère. Parce que quand on vend sur un mouchoir de poche une montre cassée et un vieux livre, c'est parce qu'on a envie de parler à quelqu'un. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire « Je suis parmi vous et ensemble, on fait circuler quelque chose. Mmh. » Et ce qu'on fait circuler ensemble, c'est pas de la marchandise.
D'ailleurs, il y a peu de choses d'acheter ou de vendre réellement.
Réellement. Mais de voir tous ces étals, moi... Ça, ça me plaît beaucoup. Alors, on va les pousser. Tu vois, on les a déjà poussés, on les a déjà délogés du fait qu'ils étaient en face de la Cité de la Musique. On va essayer de les pousser encore un peu plus loin. On a mis un parking. Non, des terrains de pétanque, je crois. Ça, c'est pas mal. Ça, si on fait des terrains de pétanque, c'est bien aussi.
Ouais.
Parce que... C'est pas pour le folklore, mais c'est...
C'est aussi un autre rapport.
C'est un autre rapport. Oui, c'est un autre rapport.
En société.
Oui, c'est un autre rapport en société. Si tu veux, quand on n'est pas méditerranéen et qu'on vient d'ailleurs, on peut se dire « Mais qu'est-ce que c'est ces gens? Qu'est-ce qu'ils vendent? Qu'est-ce qu'ils doivent être pauvres pour vendre ces trucs-là? Ouh là là, quelle misère !» Il y a... Tout juste, si on ne te vend pas, je sais pas moi, une bouteille d'Evian en plastoc ou un truc comme ça, tu vois, tu te demandes vraiment mais comment on peut chercher à vendre la moitié d'une Adidas, tu vois, des baskets, des trucs comme ça. Mais moi, je vois autre chose là derrière. Je vois autre chose. Je vois la figure de la personne soudain qui est là derrière son étal et qui commence à parler aux voisins et qui commence à raconter une histoire et qui. Et tout le monde rigole devant cette. C'est des objets transactionnels, si tu veux, ou relationnels, pardon. Je sais pas. Je vais pas. Non, c'était une vieille connerie de l'art contemporain, ça, j'en veux pas. Mais tu vois, ça produit quand même immédiatement un plaisir.
Il y a les chaises aussi, les chaises et les tables dehors. Dès qu'on peut utiliser un petit bout de trottoir ou de rue,
on les met
dehors.
Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Hein. Les maisons débordent sur la rue. Hein. Ah ben, on vit dehors ici. Hein. On parlait de dehors tout à l'heure. Mais on est tout. Alors, tu vois, ces rues, je les ai beaucoup fréquentées quand j'étais adolescent. Tu vois, là, il y avait des poutres qui étaient en travers de ces rues-là. Elles étaient considérées comme étant insalubres à l'époque. Déjà, la rue du Bon Pasteur, par exemple, ou la rue. C'est la rue du Verger qui est là-bas. J'ai oublié le nom de cette rue. Bon, bref, c'est pas important. Mais toutes ces rues étaient déjà dans un état délabré, extrêmement délabré dans les années 60. Là, elles ont été, je crois, assainies. Mais il y a toujours la même vie à l'intérieur, même si les populations ont changé. Et elle reste toujours très très vivante. Et c'est un endroit de digestion des communautés. C'est-à-dire que les communautés arrivantes peuvent très bien tourner autour de cet endroit pendant un certain temps avant de s'intégrer. Et l'oisiveté que l'on voit là, c'est pas de l'oisiveté, c'est une recherche, tu vois. On cherche sa place. Hein, c'est gens qui cherchent leur place. Bon, là, tu vois là, les gens qui sont fouillés par la marée chaussée parce que, bien entendu, il faut surveiller les petits trafics de cigarettes et tout ça, comme si ça pouvait... comme si par rapport au hold-up auquel on assiste à l'heure actuelle, ça pouvait... Ou au hold-up gigantesque qui font s'écrouler des pays entiers, ça pouvait représenter quelque chose que de faire chier quelqu'un pour 3 paquets de cigarettes. Puis alors, bien entendu, la recherche sans arrêt du sans-papier, cette espèce de trac immonde auprès de gens qui cherchent simplement à nourrir leur famille et qui partent loin pour ça, comme tous les hommes l'ont fait depuis le début des temps pour peupler la terre. Le mouvement migratoire, il n'y a rien de plus naturel, c'est l'essence même de l'homme, la migration.
Trouver sa place et émigrer sans arrêt, c'est... Deux pôles finalement presque opposés et pourtant ça va ensemble.
Oui, si tu veux, tu trouves ta place dans un moment donné. La stabilité, elle n'est que momentanée dans une existence et on a besoin de la défaire et de la regagner ensuite. Mais trouver sa place, oui, c'est important, mais on trouve sa place dans la mobilité, hein, si tu veux. Alors, il faut... Moi, ce que je supporte pas en ce moment, c'est qu'on puisse dire à un continent entier « Restez où vous êtes ». Je trouve ça mais d'une injustice hurlante. Ça n'est pas admissible. Il n'y a rien sur le plan humain qui peut permettre de dire aux gens de tout un continent « Restez où vous êtes ». C'est incroyable. Est-ce qu'on peut dire à une jeunesse comme ça « Restez où vous êtes » ? Ils n'ont pas le droit, eux aussi, d'aller voir du pays ? Ouais. C'est pas admissible. C'est dégueulasse. C'est immonde.
Frédéric, on va continuer notre promenade juste tous les deux. On va arrêter là l'enregistrement. Je te remercie de cette promenade dans Marseille et un peu dans les littératures et le cinéma.
Bon, mais Pascal, merci à toi. Je crois qu'on a très peu parlé de littérature. J'ai oublié si on en a parlé même. On a surtout parlé de la vie. Mais... Alors je dis toujours, tu vois, j'arrête jamais de dire, tu sais, moi mes livres, c'est pas Marseille et tout. Mais en fin de compte, on se réimmerge très facilement dans le bain. Hein,
c'est vrai, en même temps, on est en plein milieu. Merci Frédéric.
Con toda palabra, con toda sonrisa, con toda mirada, con toda caricia.
Voilà, on termine cette rencontre avec Frédéric Valabrègue sur l'idée d'ouverture, d'abolition des frontières. Cette présence humaine aussi, celle des habitants du quartier de la Porte d'Aix, où nous achevons notre promenade. Et puis la présence de l'écrivain, de l'artiste au cœur de la ville, dehors, là où les choses se passent. Vous pouvez retrouver cette émission et aussi les références complètes des ouvrages de Frédéric Valabrègue sur le site de Grenouille, www.grenouille888.org, d'ici quelques jours. Merci de votre écoute et à bientôt, à la prochaine émission à l'air libre, tous les premiers mercredis du mois.
Me entrego a tus brazos, con miedo y con calma, un ruego en la boca.